BW. Vue d'Allemagne.
Schaffen das, nous allons y arriver. La phrase prononcée par Angela Merkel en 2015, alors que l'Europe fait face à un afflux inédit de réfugiés, est devenue célèbre. 5 ans plus tard, l'Allemagne a-t-elle réussi le pari de l'intégration? On fait le point dans un instant. En deuxième partie de ce magazine, on vous emmène au Ghana, où il sera question d'Europe, de perruques et d'héritage colonial. Je vous laisse deviner de quelle profession il s'agit. Ce sera un reportage d'Amira Swilem. Vous écoutez bien Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Willkommen. Bienvenue, Barka d'Azoua.
Je dis tout simplement que l'Allemagne est un pays fort. Notre motivation doit être, nous avons déjà réussi tant de choses. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Et là où il y a des obstacles, il faudra les surmonter.
Ce 31 août 2015, la chancelière Angela Merkel veut rassurer l'opinion allemande. En quelques semaines, des dizaines de milliers de personnes sont arrivées aux portes de l'Europe, principalement par la route des Balkans. La plupart viennent de Syrie où la guerre fait rage, mais aussi d'Irak, d'Afghanistan ou d'Afrique du Nord. Alors que les Européens sont divisés sur l'attitude à adopter face à ces arrivées massives, Angela Merkel annonce que l'Allemagne va laisser entrer ceux qui cherchent un refuge. Autrice d'une thèse sur l'accueil des sans-papiers, Inza Breyer se souvient de ce moment particulier.
C'est un moment très important historiquement et à mon avis personnel, c'était important d'ouvrir les frontières à ce moment-là. Et la phrase de Merkel, au moment où elle a prononcé cette phrase, je ne crois pas personnellement qu'elle savait jusqu'à quel point ce sera une phrase qui devient aussi, entre guillemets, historique et qui est reprise autant de fois.
La décision d'Angela Merkel lui vaudra le surnom de chancelière des réfugiés. Rien qu'en 2015, près d'1 million de personnes déposent une demande d'asile en Allemagne. Il s'agit dès lors pour le pays de gérer l'accueil, la relocalisation et l'intégration des personnes à qui il a ouvert ses portes. Un défi relevé grâce à l'engagement de nombreux bénévoles. Beaucoup d'Allemands, choqués par les images de la guerre en Syrie, mais aussi par les naufrages en Méditerranée, se mobilisent alors pour accueillir des réfugiés.
On a vu que l'administration, qui était aussi un peu, surtout dans quelques régions en Allemagne, est débordée par la situation. Et beaucoup de questions étaient prises en charge par la société civile, par ce qu'on a appelé en Allemagne la Willkommenskultur, la culture de bienvenue. Beaucoup de gens sont venus aider. Ils ont donné des cours d'allemand pour des enfants, pour des adultes. Ils ont donné des vêtements, du temps pour des enfants. Il y avait toute une structure qui s'est créée. Et ça, c'était quand même exceptionnel parce qu'on voyait qu'il y avait une sorte de volonté dans la société d'accueillir des gens et pas juste les accueillir comme ça, mais de donner du temps et de donner de l'argent ou des biens pour les migrants qui sont venus.
Un engagement qui a porté ses fruits. 5 ans plus tard, le bilan de l'intégration des réfugiés de 2015 est plutôt positif, comme le souligne Karl Kopp, directeur Europe de l'ONG
ProAsile. Plus d'un million de réfugiés ont été intégrés. Certains travaillent, 85% ont suivi un cours d'allemand. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. C'est surtout grâce aux réfugiés eux-mêmes, à la société civile et aux autorités locales qui ont comblé de nombreuses lacunes pour faire en sorte que les demandeurs d'asile soient accueillis de la bonne manière en Allemagne.
Un bémol toutefois en matière d'emploi, selon une étude de l'Institut de recherche sur le marché du travail, un peu moins de la moitié des personnes ayant immigré en Allemagne depuis 2013 ont un emploi rémunéré et la tendance est à la baisse en raison de la pandémie de coronavirus car de nombreux réfugiés ont été licenciés. L'engagement citoyen, lui, est toujours présent, de nombreuses initiatives sont toujours actives, même si le nombre de demandes d'asile est en baisse constante depuis 2016. Il faut dire que la politique s'est durcie, et ce, très rapidement après l'ouverture de septembre 2015. Karl Kopp.
Merkel
a, en septembre 2015, adopté une position très humaine et fidèle à ses principes et nous l'en remercions. Mais ce qu'on sous-estime, c'est que le gouvernement et avec lui la chancelière des réfugiés a instauré à partir d'octobre 2015 de nombreuses mesures restrictives pour les demandeurs d'asile. Les procédures ont été accélérées, les gens doivent rester plus longtemps dans des structures d'accueil. Le regroupement familial a été massivement restreint et l'accent mis sur les expulsions.
Und der Fokus auf Abschied.
seconde D.
L'Allemagne a été aussi en première ligne dans la négociation d'un accord avec la Turquie sur le rapatriement des demandeurs d'asile déboutés, conclu en mars 2016 et dénoncé par la plupart des organisations humanitaires. Angela Merkel, qui semblait prôner l'ouverture, a-t-elle été dépassée par les partisans de la ligne dure au sein du camp conservateur ? Dès le début, son allié bavarois, Horst Seehofer, critique ouvertement sa décision, brandissant notamment la menace d'un flux incontrôlé de réfugiés. Inza Breyer.
Au sein de l'Union conservatrice, il y avait tout un discours sur la politique qu'on peut poursuivre. Et il faut dire que c'était un moment très bref, finalement, où on a laissé entrer les migrants. Après, il y avait toute une discussion autour de comment est-ce qu'on peut fermer les frontières, faciliter l'expulsion, rendre difficile le regroupement familial. Du coup, il y avait très 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 vite un basculement de la discussion qui est un peu au contraire de ce que j'ai disais auparavant, qu'il y avait une grande ouverture au sein de la société. Du coup, il y avait vraiment deux côtés qui étaient très opposés.
Des événements comme la nuit du Nouvel An 2016, où des femmes sont agressées sexuellement par des migrants à Cologne, contribuent à diviser encore plus l'opinion. Tandis que les conservateurs se déchirent, l'extrême droite profite du climat d'incertitude et attise les peurs. Et le parti anti-migrant AfD réussit son entrée au Parlement en 2017, devenant la première force d'opposition politique. Une conséquence, selon Karl Kopp, d'un manque de principes politiques.
Qu'est-ce que les grands partis ont gagné à reprendre les discours de l'extrême droite et des racistes ? La phrase de Merkel « nous allons y arriver » était un principe qu'on aurait pu maintenir et décliner parce qu'il y avait une vraie volonté au sein de la population de soutenir cette politique. Mais quand on passe son temps à adopter des lois restrictives et à alimenter la polémique, alors on perd le soutien de la société pour une politique d'ouverture.
Aujourd'hui encore, la société allemande est divisée sur les questions de migration. Environ 60% pensent que le pays peut encore accueillir des réfugiés, mais 40% sont persuadés du contraire. Plusieurs communes qui sont prêtes à en accueillir se heurtent à des obstacles administratifs. En attendant, des milliers de réfugiés survivent dans des conditions inhumaines sur les îles grecques ou italiennes. Nous allons y arriver, une phrase encore bien d'actualité. D'Allemagne et comme promis, nous prenons la direction du Ghana. Il fait partie des 17 pays africains qui célèbrent cette année les 60 ans de leur indépendance. Depuis quelques mois, les initiatives qui visent à réaffirmer la souveraineté de ces jeunes États se multiplient entre l'annonce de l'abandon du franc CFA ou la restitution d'objets d'art africains détenus en Europe, pour ne citer que ces exemples. Dans l'ancienne colonie britannique qu'est le Ghana, un surprenant débat fait rage. Là-bas, les juges et les avocats continuent de porter perruques, robes et autres bavettes héritées de la colonisation, mais la nouvelle génération veut désormais mettre fin à ces symboles, ce qui n'est pas si simple comme le montre ce reportage d'Amira Swilem.
Dans le tumulte d'Accra, la capitale ghanéenne, il marche la tête haute et le regard assuré. Kwame Namensa est avocat depuis 2 ans. Il m'emmène là où tout a commencé pour lui. Dans une petite échoppe, en bordure de la faculté de droit.
Voilà la perruque, et puis la robe.
Ici, comme dans de nombreux pays anglophones du continent, impossible de plaider sans cet attirail hérité de la colonisation britannique. Kwabena, comme tous les jeunes avocats du pays, perpétue donc cette tradition. Comment vous vous sentez quand vous mettez cette tenue ?
Je la porte tous les jours avec beaucoup de fierté parce que je sais combien les études de droit ont été difficiles et c'est une responsabilité de porter cet habit.
L'ancien bon élève qu'il a été se souvient parfaitement des origines de cette coutume.
Tout a commencé quand le roi Charles II a visité Paris. Il a alors remarqué que les personnes nobles y portaient des perruques. C'est ainsi que cette coutume s'est répandue en Angleterre. L'arsenal législatif de notre pays venant du Royaume-Uni, nous avons alors adopté cette habitude également.
Cela peut sembler paradoxal, mais cette coutume qui a quasiment disparu de Grande-Bretagne reste très ancrée dans les anciennes colonies africaines du Royaume. Une tradition ancienne, mais aussi onéreuse. Kwame Namensah gagne environ 350 euros par mois. Pour lui, comme pour ses jeunes confrères, l'achat d'une perruque est un petit investissement. La vendeuse de la boutique nous montre les deux modèles phares que les jeunes avocats s'arrachent.
Celle-ci coûte l'équivalent de 225 euros et celle-là 60 euros. La première vient de Grande-Bretagne et elle est de meilleure qualité que la seconde qui vient du Nigeria.
Au-delà du coût, ces postiches sont perçus comme des reliques indignes par la nouvelle génération d'avocats. Pour comprendre ce qui les dérange tant dans cet attirail, je me rends à l'université de droit d'Accra. Sur les bancs de l'université, une petite trentaine d'étudiants, ils ont une vingtaine d'années et ont déjà un avis très arrêté sur la question.
La thématique prend parfois des proportions qui confinent au débat national. Certains disent que si on a mis fin à la colonisation, il faut aussi en finir avec cette façon de s'habiller. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'on peut plaider sans s'habiller de cette façon-là. Cette tenue ne représente rien. Elle n'a aucune signification.
Cela n'a pas de sens de s'habiller ainsi en noir quand il fait 40 degrés dehors. Il faut qu'on y mette fin. Il faut réglementer la façon de se vêtir à la cour. Et moi, personnellement, je suis favorable à la mise en place d'un habit africain.
63 ans après l'indépendance du Ghana, les plus jeunes veulent en finir avec les symboles hérités de la colonisation. Une posture qui a le don d'irriter les plus traditionnalistes. Je me rends dans les locaux de l'Ordre des avocats ghanéens. Il se situe dans un quartier très chic d'Accra. J'ai rendez-vous avec Anthony Forson, le président de l'Ordre. Entre deux questions, il lève les yeux au ciel. Visiblement, il a hâte que l'interview se finisse.
De la même façon que ça ne me pose aucun problème de porter ce costume qui est aussi hérité de la colonisation britannique, je n'ai aucun problème avec la robe et la perruque d'avocat. L'avantage de ce dress code, c'est qu'il permet de distinguer rapidement qui est qui, de savoir qui est justiciable et qui est avocat. Tout ce qui est hérité de la colonisation n'est pas bon ou mauvais en soi. Pour moi, il n'y a même pas de débat.
Pas de quoi faire taire la contestation pour autant. Car au-delà du folklore, certains estiment que la question est bien plus profonde qu'une simple querelle vestimentaire. C'est le cas de Raymond Atougouba. Il est le doyen de l'école de droit d'Accra. Il nous reçoit dans son bureau.
Le dress code est symptomatique, symbolique d'un problème bien plus profond. Aujourd'hui encore, nous avons des lois britanniques qui continuent à s'appliquer au Ghana. Elles avaient été adoptées il y a très longtemps au Royaume-Uni et elles continuent de faire partie de notre arsenal législatif. Une façon de matérialiser le changement, c'est de changer la façon dont on s'habille. Aujourd'hui, la loi que nous avons est aussi rigide que la façon dont nous nous habillons.
Au Ghana, comme dans les autres anciennes colonies britanniques, l'arrivée d'une nouvelle génération à la barre n'a pas fini de bousculer la justice.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !